les sports. Tous les sports. CFM.
Lundi Sport, bonjour. On va se pencher aujourd'hui sur les résultats de football, de rugby et de tennis aussi. Mais on n'oubliera pas la boxe, on n'oubliera pas le basket, on n'oubliera pas le foot-fauteuil, on n'oubliera rien ni personne. Car aujourd'hui, même si c'est le jour le plus déprimant de l'année selon toutes les statistiques, nous, on continue d'avoir la banane. Et quand je dis nous, c'est David Dumont dans les studios de CFM Rodez. Salut!
Salut Rémi, bonsoir à tous.
On entend aussi le ricanement de Jean-Claude Vigroux. Bonjour Jean-Claude.
Bonsoir mon petit Rémi.
Oh bon, ça ricane pas trop quand même. Ça devait être celui de Fada peut-être. Salut Fada.
Il doit rigoler dans sa voiture. Fada, il est derrière le chasse-neige, un petit peu coincé dans les embouteillages et la neige ce soir. Peut venir au studio.
Par téléphone, parce que les studios de CFM KLU sont momentanément closed. Et il y a Jean-Claude Defarge. Salut Jean-Claude.
Salut, bah écoute, s'il y a de la neige dans l'Aveyron, ici on n'en est pas loin. Hein.
Ouais, bon, bah ça va, t'es près de la cheminée avec ton téléphone, t'es bien installé dans ton fauteuil.
Ah ouais, ouais, la bière pas loin.
Tu as l'air pas mal. Tu as l'air en bonne forme, ça va. Et puis ouais. Ici, dans les studios à Montauban, alors Yannick Ricardo n'est pas avec nous. On va le joindre par téléphone parce qu'il est en stage à Pau. Mais on a bien toujours fidèle au poste Jennings Darcourt. Salut Jennings.
Salut Rémi. Et oui, toujours au poste.
Alors, on s'intéressera tout à l'heure à la boxe. Alors, pourquoi la boxe? Parce que je suis allé voir hier soir un superbe film, la fin de la grande série des Rocky Balboa, des Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis allé voir le match d'Adonis Creed contre, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, mais voilà, c'est un film qui est plutôt pas mal et qui m'a donné à nouveau envie de m'intéresser à ce sport qui est la boxe anglaise. Et plus particulièrement par le côté de la boxe des poids lourds, quoi, parce que voilà, dans Rocky, c'est quand même des super costauds qui se battent entre eux. Et ça m'a fait rire aujourd'hui, puisque justement sur Internet, il y avait une actualité. Il y a le super champion de la WBA qui s'est fait comment dire.
On va pas chambrer, mais provoqué,
ouais, voilà, ouais. Par l'autre champion anglais de la WBC, à moins que ce ne soit la WBB ou la W. Je n'y comprends rien. Mais peut-être qu'on se fera expliquer ça, David, par un invité.
Oui, il s'appelle Romain Blan. Il est entraîneur de boxe à l'ASPTT Rodez. C'est le plus gros club de boxe ici à Rodez. Lui, il est actuellement entraîneur de boxe française, hein. Mais pour passer à la boxe française, on est obligé d'avoir pratiqué la boxe anglaise, et on verra ça avec lui tout à l'heure.
Eh ben, très bien. On commence par le football et la synthèse de la journée de National 1.
21e journée, toujours les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. En tête, le Paris Saint-Germain qui caracole en tête avec 21 points d'avance. Cette fois-ci, il a encore écarté d'autres équipes. Le Paris Saint-Germain qui est venu gagner à Toulouse sur le score de 1-0. Ça a été dur pour les Parisiens, mais ils y sont pas venus grâce toujours à ce diable d'Ibrahimovic, Zlatan, qui a mis son but. Donc les Parisiens sont en tête. Monaco redore son blason, ça y est, ça brille du côté de Monaco. Les Monégasques sont second. Monaco qui est allé gagner à Lorient par 2-0 se retrouve en deuxième place. Le troisième, eh bien, c'est Angers. Angers qui est allé perdre à Nice sur le score de 2-1. Nice a gagné grâce à deux pénaltys réussis par Ben Arfa. Angers reste à la troisième place. Nice, le vainqueur de ce match, lui, passe à la quatrième place. Et hier soir, à Saint-Étienne, avait lieu le derby qui opposait Saint-Étienne à Lyon, devant un stade rempli et certainement beaucoup de monde devant la télévision. Et bien, c'est Saint-Étienne qui a remporté la victoire avec un but en deuxième mi-temps marqué par son Norvégien Söderlund qui a marqué à la 76e minute. et qui permet à Saint-Étienne de glisser à la cinquième place. Marseille, quant à lui, s'est bien repris. Il faudrait interdire pratiquement les matchs au stade Vélodrome. Il faudrait permettre aux Marseillais de ne jouer qu'à l'extérieur. Marseille est allé battre Caen, une équipe qui flambait, qui était à la sixième place. Eh bien, Marseille est allé gagner à Caen par 3-1, avec un but de Batshuayi, un but de Nkoudou, un but de Sarr. Les Marseillais marquent à l'extérieur et n'arrivent pas à concrétiser sur leur pelouse du stade Vélodrome. Voilà pour ce qui est des résultats de cette Ligue 1, mais toujours en tête ce diable de Paris Saint-Germain.
Ouais, et quand tu dis que c'est plus facile pour l'OM de marquer à l'extérieur qu'à domicile, ben c'est normal tout simplement parce qu'à l'extérieur c'est l'équipe adverse, c'est-à-dire Caen.
Oui, en général, oui, à l'extérieur c'est l'équipe adverse. Oui.
Non, mais c'est Caen qui fait le jeu quand elle joue à domicile, alors que Marseille, voilà, ils peuvent profiter des.
Et ouais, ils peuvent aussi en contre. Mais c'est toutes les équipes, c'est pas propre à Marseille.
Oui, ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que cette année le championnat est vraiment merdique, il faut le dire. Il est très faible. Alors on a beau me dire que le PSG est largement plus fort et tout avec l'argent et tout, ça c'est un fait. Mais par contre, voir Angers deuxième ou troisième, eh ben j'en suis vraiment fier.
Troisième maintenant.
Ouais, mais j'en suis vraiment fier et ce serait vraiment bien d'ailleurs qu'ils finissent sur le podium. Comme ça, ça foutrait vraiment les glandes à certains clubs qui jouent vraiment mal, comme l'AS Monaco qui joue défensivement à domicile et qui fait un peu comme l'OM au final et qui arrive à se libérer à l'extérieur.
On revient au football italien. Au célèbre Catenaccio qui nous avait hérité à l'époque d'Elinio Herrera, l'entraîneur de l'équipe italienne. Et c'est pas du beau football, mais c'est du football qui paye et qui donne des points.
Oui, mais ça, c'était dans les années 90. Maintenant, on est en 2016.
Mais même 80, même.
Oui, mais alors, raison de plus. Donc, tu vois la frilosité quand même des entraîneurs. Et malheureusement, c'est vraiment dommage.
Oui, ils jouent leur place.
Autre chose.
On les comprend. Ouais, du tennis. Je vous parlais de tennis. C'était la première journée. Alors avant de parler de l'affaire, on verra ça dans l'info en plus. Je vous parlais de match de tennis. Hein. C'était la première journée de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Alors pas de surprise dans cette première journée. Les gros sont qualifiés. Djokovic, Federer. Côté français aussi, pas de mauvaise surprise. Joe Wilfried Tsonga est passé, qualifié en 4-7 quand même. Hein. Gilles Simon lui aussi s'est qualifié. On a aussi deux autres Français beaucoup moins connus qui ont passé déjà le cap du premier tour en Australie. Il y en a un qui s'appelle Pierre Hugerbert, 167e joueur mondial, et un tout jeune homme aussi, Quentin Alice, issu des qualifications, qui va donc lui aussi jouer un deuxième tour en Australie. Du côté des filles, à noter la qualification de Mladenovic pour le camp français. Un seul éliminé, c'est Benoît Paire chez les garçons, éliminé donc aujourd'hui à l'occasion de cette Open de Melbourne en Australie.
Et c'est quoi cette affaire de fou là, 16 joueurs qui ont été, qui ont visiblement trafiqué leur match ou je ne sais quoi.
Ben oui, ben c'est l'amour de l'argent, ça. C'est pas l'amour du sport, c'est l'amour de l'argent.
Vous voyez des mafias aussi en jeu, j'en dirai un petit mot dans l'info. En plus, j'ai même un nom, moi, d'après les sites d'information, en plus très sérieux, de la BBC et de BuzzFeed.
Ok. Pour l'instant, tu serais le seul d'ailleurs, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a dit le nom d'un joueur.
Bah, je te dis, BBC commence à lâcher des morceaux, mais c'est difficile parce qu'ils sont pas mal protégés, les joueurs, par l'ATP, le circuit professionnel. C'est un peu comme la FIFA du football,
ouais,
qui veut pas lâcher les noms et qui doit avoir ses raisons, mais on devrait en avoir quelques-uns quand même qui tombent.
Oui, ça devrait fuiter au bout d'un moment.
Puis attention, parce que si c'est quand même, ils parlent de mafia russe, mafia italienne, mafia calabraise, attention, si tu lâches un nom.
Il y aura de la vengeance.
Voilà. Maquet,
dans la rivière, toi.
Oh, tu vois, oui, dans le Tesco. Une petite question quiz, celle d'Aurélien peut-être là qui s'ennuie depuis tout à l'heure là. Donc pas du tout. Il a pas de question quiz. David.
Ah bah ouais, moi si vous voulez, j'ai des questions quiz, j'en ai même plusieurs. On va rester dans le tennis. Ma première question tennis, elle va être, tiens, je vais prendre celle-là. Parmi les joueurs ou joueuses françaises, quel est lequel ou laquelle ou lesquels qui ont le plus grand nombre de participations à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison? Il y en a plusieurs qui ont un même nombre de participations à égalité, donc vous avez plusieurs chances de gagner. Alors attendez, du calme. Tu m'as dit quoi, Aurélien?
Serena Williams.
Djokovic.
Non, elle est pas française.
Guy Forget.
Moresmo. Fille Moresmo.
Alors Moresmo, non. Elle est non, c'est pas dans les trois.
Yannick Noah.
Avec le nombre de participations, non plus, Rémi. C'est pas Yannick Noah.
Djokovic.
Non, il est toujours pas français.
Guy Forget.
Ah merde, français.
Guy Forget.
Guy Forget non plus, non.
Ouais. Jean-Claude. Patrice Lecomte.
Ah, les deux, parce que j'en ai trois à égalité avec un même nombre de participations.
Alors, c'est Tanto, il a arrêté à 40 ans alors.
Ouais, mais en Australie, il en a fait moins que d'autres.
Tsonga.
Non, Tsonga pas encore. Marie Pierce, bien gagné, 13 participations pour Marie Pierce.
Ça fait plaisir.
Qui a d'ailleurs remporté le tournoi en 1995, hein, elle carrément. Allez, encore un. Dans les deux qui restent à égalité avec 13 participations, il y en a un qui est relativement facile. L'autre, si vous l'aviez trouvé, je vous invite au resto.
Il y a Ben Noah, donc lui non.
Donc c'était il y a super longtemps.
Non non, c'était ça s'est terminé sa carrière il y a assez peu de temps pour le garçon, pour la fille un peu plus.
Clément.
Arnaud Clément, voilà, bravo. 13 participations.
Oh
à l'Open d'Australie pour Arnaud Clément. Voilà, et la troisième égalité avec 13 participations toujours côté français hein, c'est Nathalie Dechy, je sais pas si vous vous souvenez de Nathalie Dechy.
Oui.
Longue carrière dans le tennis et 13 participations. Amélie Mauresmo, je sais plus qui l'a cité, mais elle 11 participations à l'Open d'Australie et une victoire en 2006.
Le rugby, c'est juste après la pub.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Maman, maman, t'as vu? Il y a un trait sur le pare-brise.
Je sais, chérie. Le pare-brise est cassé, mais je vais avoir une franchise à payer pour le remplacer.
Mais non, chez Rapid Pare-brise, tu ne paies rien. Et en plus, si t'as pas de franchise, on t'offre une tablette tactile.
Ah bon? Chez qui tu dis?
Chez Rapid Pare-brise. 505 avenue de l'Europe, à Alba Sud Montauban.
Rapid Pare-brise? Ok, on y va. Et oui, vous aussi, n'attendez plus. Allez chez Rapid Pare-brise pour vos vitrages automobiles. Ils ouvrent le 12 janvier, avenue de l'Europe, à Alba Sud Montauban. Et en plus, une carte totale de 25 euros attend les 50 premiers clients. Dépêchez-vous.
Examinons ce que l'on peut entendre en conduisant sa voiture. Ça, vous l'entendez?
Non mais t'es complètement... Mais t'as eu ton permis dans une pâche de surprise? Va donc, t'es con...
Ça, vous l'entendez aussi. Et ça, vous l'entendez? Vous l'entendez pas? C'est une affiche publicitaire. C'est prouvé. Dans sa voiture, la publicité qu'on voit le mieux, c'est celle qu'on entend. Grâce à CFM, vous captez en tout temps et en tout lieu l'attention de vos futurs clients en diffusant votre publicité sur 4 départements d'un seul coup. CFM Normidie-Pyrénées.
Les habitants vont entendre parler de vous!
Bienvenue.
PCV. Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
L'invité de PCV cette semaine, c'est Anastasia.
Quand je dors, les gorgones dansent et leurs
serpents. Aquatofana, c'est le titre du deuxième album d'Anastasia.
Tu vois, aujourd'hui, je vomis tout, j'aiguise ma lame et des...
Anastasia est dans PCV tous les jours à 9h30, 15h40, 18h50, diffusion intégrale, samedi 22h.
CFM, à Moissac, Moissac, 90.7, 90.7.
Allez, on attaque direct avec les résultats de rugby, Coupe d'Europe et Pro D2.
Alors, on y va. Donc, cinquième journée de Coupe d'Europe et avant-dernière journée de la première phase. Poulain, match sans enjeu entre Yonax et Toulouse. 32-14 pour Yonax. Dans cette poule, les deux clubs sont déjà éliminés. Le premier, c'est les Sarrazins en poule 2. Bordeaux-Bègles a battu Exeter, une équipe anglaise, par 34-27. Et Clermont a perdu le match qu'il fallait pas perdre aux Ospreys par 21-13 dans cette poule. Premier les Ospreys, deuxième Clermont, troisième Bordeaux-Bègles. La dernière journée sera décisive en poule 3. Le Racing a écrasé Canekly, une équipe galloise, par 64-14 et promis Caracal premier est déjà qualifié pour l'écart à domicile. En poule 4, le Stade français est allé perdre au Munster, une équipe irlandaise qui est forte au niveau de la Coupe d'Europe, par 26-13. Dans cette poule, les Leicester premier 23 points, deuxième le Stade français 14 points, troisième le Munster 10 points et ces deux clubs vont se rencontrer la dernière journée. En poule 5, Toulon a eu du bol, a gagné le match à la 80e minute, un essai qui vient de nulle part, a gagné par 15-11. Toulon se replace premier de la poule, deuxième les Waps, troisième Baf et la dernière journée sera là aussi décisive. Donc nos clubs français n'ont pas trop brillé pour cette cinquième journée de Coupe d'Europe. En Pro D2, on note 2 victoires à l'extérieur, celle d'Albi à Carcassonne 13-12 et celle de Béziers à Dax par 20-18. Aurillac facile le vainqueur de Mont-de-Marsan par 29-15. Biarritz écrase Colomiers par 26-3 et Lyon écrase Narbonne par 36-10. Tarbes, une victoire pour rien par 19-10 puisqu'on sait que Tarbes va être relégué d'office l'année prochaine pour des raisons budgétaires. Aix, qui veut se sauver, lui, a battu l'USAP. Alors, l'USAP, c'est un coup bien, un coup mauvais, quoi. L'Aix, en Provence, a battu donc l'USAP par 30-21. L'USM, eh ben, première période, ouais, ça va, on joue bien, on mène 14-3. Deuxième période, on tire le rideau, rien ne va plus. Ils ont gagné de peu par 14-9 contre Bourgoin. Alors vraiment un match, hein. L'USM, il faut qu'ils jouent les deuxièmes mi-temps aussi, même quand ils mènent au score. Dans cette, en premier deux, au classement, Lyon premier facile avec 14 points d'avance sur Béziers. Bayonne est troisième, Aurillac quatrième et Albi cinquième. Et en fin de classement, Carcassonne 13e, Dax 14e, Aix-en-Provence 15e, Tarbes 16e et Montauban est 8e. Voilà pour la Pro D2.
Merci Jean-Claude. Je vous livre ma question illico presto. Comment s'appelle ce grand boxeur? Donnez-moi le nom de ce boxeur qui est mort à l'âge de 42 ans sur le ring.
Ah, alors c'est pas Rocky?
Il est mort au 15e round. Ah bah non, c'est pas Rocky.
Non.
On l'appelait le danseur massacreur.
L'astre, oh, c'est vieux, ça.
L'astre du désastre.
Oh, c'est vieux?
Le comte du monte chaos.
C'est en quelle année?
Le contre... l'actualité américaine.
Le contre-rute de l'Uppercute.
En quelle année c'était?
Hein?
Avant la Seconde Guerre mondiale?
Hein? Ali? C'est Mohamed dans Ali. Les années 80. Non, c'est pas Mohamed Ali.
Ah bon? Est-ce qu'il est américain?
Il est américain.
Ray Sugar Robinson?
Non.
C'est pas facile à dire.
L'autre, il invente, il invente des noms.
dans les années 80,
dans les années à Mexique, non, voire 90, hein, voire 90.
Est-ce qu'il est décédé pendant un combat?
Oui, il est décédé pendant le combat, à l'âge de 42 ans, au 15e round.
Oh là là, vraiment à la fin.
Non, peut-être pas le 15e round. Ouais, non, peut-être bon. Pas le 15e round, mais.
Il avait
Patterson?
42 ans. Non, pas
Floyd Patterson?
Non, non, non.
Tyson, il est pas mort, ou alors j'ai loupé.
Tyson n'est pas mort.
Non,
on te l'aurait dit.
Il est mort d'un coup de poing. Hein,
ouais.
C'était sur un match d'exhibition.
Ah bah, oh, le con.
Contre un russe.
Ouais.
Contre Ivan Drago.
C'est Michael Ivan, Jones, un truc
c'est
comme ça.
C'est Ivan Drago qui l'a tué.
Alors, salaud.
Alors, oh, heureusement, aujourd'hui, son fils remonte sur scène.
Apollo Creed.
Apollo Creed. Oui, c'est Apollo Creed.
Ah, c'est David qui a répondu.
Bravo David.
Salut les amis.
Heureusement que t'arrives, hein, quand même.
Il est là.
C'est Apollo Creed qui est mort dans Rocky 4 en affrontant Ivan Drago, mais il a été vengé par Rocky par la suite. Je vous parle de ça. Bah oui, c'est du. Bah évidemment, c'est pas vrai.
Faut que tu saches, Rémi, qu'il y a un boxeur australien. Qui vient de décéder pendant un match de boxe. J'ai lu ça dans mon journal préféré qui s'appelle L'Équipe. Et il est décédé à l'âge de 25 ans. Et il y a un autre qui est décédé aussi pendant un match de boxe, qui est un Jamaïcain, qui est décédé à l'âge de 40 ans. Il s'appelait O'Neill, si je me souviens bien.
Comme quoi, la boxe, ça peut être effectivement dangereux. C'est pour ça que la maman d'Adonis Creed, dans le film, ne veut pas qu'il boxe. Alors, bon, ça, un film comme ça, qui vient clore la grande série des Rocky qui est actuellement sur les écrans, ça remet forcément de l'engouement pour le grand public vers ce sport qui est la boxe. Et c'est pour ça que nous, on a décidé aujourd'hui d'en parler. Et David, tu nous présentes peut-être notre invité?
Eh ben, notre invité s'appelle Romain Blan. Il est professeur de boxe à l'ASPTT Rodez, qui compte là le plus grand club de boxe ici sur le Ruthénois. Alors, il est actuellement Romain professeur de boxe française, mais pour arriver à la boxe française, faut forcément être passé par la boxe anglaise, d'avoir beaucoup pratiqué. Bonsoir Romain.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec toute l'équipe de Lundi Sport. Je peux vous demander votre âge, Romain?
Eh ben, 32 ans, tout fraîchement, là.
Bon, est-ce que les Rocky dans votre univers et dans le choix de faire de la boxe, par exemple, ça a compté pour vous?
Alors, pas vraiment en termes de boxe anglaise, en tant que je pratique la boxe française, donc j'ai jamais été vraiment attiré par la boxe anglaise en elle-même, mais c'est l'esprit qui se dégage du boxeur, c'est de garder la garde, de pas plier le genou et d'aller jusqu'au bout parce que c'est... Il est incompatible avec un boxeur le fait de se coucher au moindre premier coup. Ce sont des combattants.
Hein. Ouais. Mais alors, il y a dans cet univers de la boxe anglaise quelque chose qu'il n'y a peut-être pas dans l'univers de la boxe française, c'est ce show justement un peu à l'américaine qu'il y a et qu'on découvre, qu'on voit là dans dans Apollo Creed, dans le film, mais qu'on voit aussi dans le réel avec Tyson Fury qui défie Deontay Wilder en montant sur sur le ring, alors que l'autre il a même pas encore le temps de savourer sa victoire. Il y a pas ça chez vous, hein, dans la boxe française?
Tout à fait. En fait, mais ça date pas d'hier. Hein. La boxe anglaise a toujours été un show par rapport à la boxe anglaise a toujours été un show par rapport à la boxe française. Déjà dès le XVIIe siècle. Hein, écoutez bien, XVIIe siècle, il y a des écrits qui racontent donc des combats du siècle entre boxeurs à Londres, des grands champions à Londres. Bon, ce n'était pas les mêmes règles. Il y avait généralement des morts, mais c'était des sommes astronomiques pour l'époque qui étaient mises en jeu, avec une foule comparable à ce qui pouvait être aujourd'hui dans un ring, enfin autour du ring. Alors que la boxe française a toujours eu du mal à trouver véritablement son public. C'est culturel. La boxe anglaise attire plus. Il y a quelque chose qui attire plus les foules que la boxe française.
Ouais, et puis la dernière fois qu'elle a été mise sur le devant de la scène, la boxe française, c'était avec les Brigades du Tigre. Donc ça date un peu quand même. Hein.
Oui, bon, il y a eu d'autres petits passages, bon, notamment dans Arsène Lupin, où il y a eu quelques petits passages, même dans Tintin,
Ouais, mais enfin, quand même. Ça date. Alors bon, on peut dire, c'est pas le même.
Je me rappelle du Capitaine Haddock.
Non, mais c'est vrai. Du coup, vous bénéficiez pas, comme la boxe anglaise ou d'autres sports, comme ça, d'une médiatisation, qui peut remplir, comme je pense que le Rocky actuellement dans les salles, là, peut remplir à nouveau les salles de sport, voyez.
Est-ce qu'ils ont ouais, non, mais je pense que c'est vraiment culturel. Bon, je vois par rapport aux gens qui viennent au club, ils préfèrent essayer d'abord la boxe anglaise parce que c'est moins compliqué, parce qu'il n'y a pas les pieds, parce qu'ils sont pas souples, parce qu'ils savent pas utiliser. Donc, il y a naturellement, les gens ne se dirigent pas vers la boxe française ou par public ou pour devenir boxeur. Hein. Je préfère l'anglaise parce que ça leur parle plus. Les bras sont plus faits pour frapper. De toute façon, c'était dit ainsi. Naturellement, l'homme frappe avec ses poings, il se déplace avec ses pieds. Ce n'est pas naturel de frapper avec les pieds. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Ça a toujours été comme ça de tout temps. Et je pense que ça continuera encore pendant un bon moment. L'anglaise plaira toujours plus. Il y aura toujours plus de show.
Ça remplit des stades, quoi. 50 000 personnes pour voir le dernier match de Deontay Wilder, là. Vous faites combien, vous, quand il y a un championnat de boxe française, vous remplissez des stades un peu?
Ben, c'est sur Paris, oui. on peut pas comparer en termes d'effectifs de public, on peut pas comparer. Franchement, c'est non, on peut pas comparer l'engouement que peuvent avoir les gens pour l'anglaise par rapport à en termes de compétition, hein, s'entend. Hein, après,
sinon, comment se porte votre club à vous? Dites-moi.
Bigrement bien, hein, si je puis dire, parce que entre la boxe anglaise, la boxe française et l'apkido, donc la troisième qui vient de nous rejoindre cette année, qui nous a rejoint comme activité, nous dépassons les 100 adhérents rien que dans notre section de multibox. Donc nous sommes très vraiment, il y a un engouement et un fort engouement féminin, notamment cette année où pour la boxe française, nous sommes à plus de 50% d'effectifs féminins.
Ils sont où les rings?
Comment?
Où est-ce que vous pratiquez? Où est-ce qu'ils sont montés les rings? Je les ai pas vus, moi, encore. À Rodez?
À la SPTT. Alors, c'est sur la zone de Bel Air. C'est la rue des Charpentiers. Il y a un grand complexe sportif Omnisport. Et c'est là, donc, où trois fois par semaine, nous donnons nos cours d'anglaise, de française et d'apkido.
Dites-moi, Romain, la boxe française, c'est bien ce qu'on appelle aussi la savate?
Oui, alors là, je vais rentrer un peu dans les termes techniques et historiques. La savate est l'ancêtre de la boxe française et elle a disparu parce qu'elle était beaucoup moins évoluée techniquement que ce qu'est devenue la boxe française. On va dire la savate n'utilisait que les pieds et des baffes, alors que la boxe française est une technique qui a poursuivi le développement des techniques en jambes, mais en rajoutant toutes les techniques complexes et complètes de la boxe anglaise. Donc la savate, alors on utilise le terme aujourd'hui pour la promotion, hein, pour changer, pour faire quelque chose d'un peu plus publicitaire, mais techniquement la savate est inférieure par rapport à la boxe française.
C'était un truc un peu de noble, non, quand même, hein, un peu petit doigt levé, non?
Pas du tout, pas du tout. autant l'anglaise que la française, c'est du jeu de vilain, hein, c'est du jeu de bas-fond. On se chicote, on se rebiffe dans les rues sombres de Paris ou de Londres, et c'est par après pour ce côté un peu viril et un peu mauvais garçon que la petite bourgeoisie et la petite noblesse s'intéresseront à ces arts martiaux. Mais non, à la base, c'est beaucoup plus fait pour se défendre dans la rue et pour régler les comptes quand on s'entend pas bien dans les bars. Juste une petite anecdote, en Angleterre, donc, deux hommes se lancent un défi. Alors, faut savoir que les règles de la boxe anglaise à l'époque, c'est pas de gants et pas de round. Le combat continue jusqu'à ce qu'un des deux boxeurs s'arrête. Donc, ça s'est terminé. Alors, ils ont commencé à se battre dans le bar. Le gérant les a mis dehors. Ils ont continué à se battre dans la rue. Et ça a duré une heure à peu près. Et quand, à la fin du combat, il y en a un qui est mort, on a pu le reconnaître que parce qu'il avait ses vêtements. On ne reconnaissait plus son visage.
Oui, effectivement. petit doigt levé, mais enfin, bon.
Là, c'est la boxe anglaise telle qu'elle se pratiquait à l'époque.
Ouais, c'est pas comme ça chez vous.
C'est
viril,
hein.
Voilà. La SPTT Rodez.
Non, on se réfère aux règles modernes.
C'est quoi la prochaine actu de la SPTT Rodez, de votre club?
Oh là, continuer à perfectionner notre pédagogie et notre entraînement, et c'est surtout pour la saison prochaine, donc là où donc Thierry Entraille, le professeur d'anglaise, lui donc aura passé son prévôt et donc son diplôme, et va pouvoir se lancer très sérieusement dans l'organisation d'événements officiels et tout ça.
Bon ben affaire à suivre, donc on espère pouvoir vous redonner la parole régulièrement avec l'équipe, d'accord?
C'est avec plaisir.
Merci Romain d'avoir été avec nous avec votre bonne humeur sur CFM Radio.
Merci à vous d'avoir invité.
À bientôt. Et l'info en plus, c'est la mafia.
Et ouais, et cette affaire une nouvelle fois qui trouble l'univers des institutions du sport, parce que on parle des joueurs, mais c'est l'ATP aussi qui a un petit peu dénoncé de pas avoir contrecarré ces histoires de matchs truqués, et c'est 16 joueurs parmi le top 50 des joueurs mondiaux qui auraient un petit peu truqué des matchs à l'occasion de Paris ces 10 dernières années. Alors c'est la BBC qui a révélé l'affaire là-bas hier, la veille du premier grand chelem de la saison en Australie. Elle dit qu'il y a 16 joueurs qui sont dans les top 50 mondiales. Il y aurait au moins un vainqueur d'un grand chelem. Et bon, pas trop de noms, mais moi j'en ai trouvé un en cherchant un petit peu au travers la BBC et le BuzzFeed.
Si on te dit qu'il s'appelle John Mac quelque chose.
John McEnroe ?
Ah mais il avait arrêté en 2007 et il était même déjà grand-père. Là on parle de la période du début des années 2000, on remonte même pas aux années 80 où peut-être que ça se faisait. Mais moi sur BBC, elle nous balance un Nikolai Davydenko, joueur russe qui a été lui plus que dans le top 50, il était même dans le top 5 des joueurs mondiaux, et il raconte toute une histoire autour d'un match où qui menait très largement et qui à ce moment-là vers la fin où il devait gagner tout un tas de paris qui apparaît sur les sites internet de Paris, puis lui qui se met à avoir mal au pied et qui perd le match. Il y a eu une petite enquête à l'époque de menée apparemment par l'ATP, mais qui n'a rien dit, et elle s'est intéressée à son adversaire Vassalo Arguello, lui aussi un joueur du top 100, hein, qui aurait échangé 82 SMS avec un parieur sicilien, j'ai le nom mais je vous le donnerai pas, à l'occasion de ce match-là. Donc une affaire très trouble, et sans doute d'autres noms qui seront révélés.
Donc, il a avoué qu'il avait été approché aussi par la mafia russe.
Voilà, Djokovic a été, mais lui il aurait refusé, il a dit je suis pas rentré dans le jeu, comme Arnaud Clément il y a quelques années, il en avait parlé. Et il aurait, lui aussi, a refusé de participer à ces histoires de Paris.
C'est grave, hein. McEnroe, il l'avait dit en 2007 dans un bouquin qu'il avait été menacé par la mafia russe s'il perdait pas un match ou s'il se couchait pas sur le terrain.
Et ouais, parce que le tennis, c'est relativement facile de tricher. En foot, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait plusieurs joueurs dans l'affaire ou qu'on soit gardien et que vraiment, bon, ça, c'est un peu louche. Tennis, tu fais, ah, j'ai mal au genou et d'un seul coup, tu joues moins bien. C'est vrai que ça peut passer plus inaperçu de tricher. C'est pas comme le handball où ils se sont fait cramer. Les joueurs de l'équipe de France, enfin de Montpellier, là, il y a quelques mois, chez nous en France. Tennis, ça peut être assez simple de tricher.
La suite après les infos.
CFM. CFM.
Il est 18h. Il vous tarde de vous mettre au chaud? Trouvez la solution avec les Maîtres du Feu à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM. Toute l'info, Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir, bonsoir à tous. L'Aveyron est placé actuellement en vigilance orange par Météo France. Une alerte qui concerne la neige et le verglas. Et pour cause, les chutes de neige faibles se sont intensifiées dans la matinée. Elles affectent désormais la quasi-totalité de la Corrèze et de l'Aveyron et elles ont atteint la 75. Cet après-midi, ces précipitations neigeuses vont devenir un petit peu plus intermittentes et la pluie devrait parfois succéder en fin de journée donc à la neige, en dessous de 400 mètres en tout cas. En Aveyron, les précipitations restent soutenues jusqu'en fin de journée avec une lente remontée de la limite pluie-neige qui va se situer vers 400 ou 500 mètres. La perturbation va continuer de gagner du terrain. Soyez très prudents sur les routes. L'alerte court jusqu'à minuit ce soir. Carole Delga veut économiser 1 million d'euros en gelant les indemnités des conseillers régionaux dans la grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. C'est ce qu'elle a proposé aujourd'hui à l'Assemblée régionale en ouverture de la deuxième session plénière à Toulouse. Selon elle, dans le contexte économique actuel, les élus doivent montrer l'exemple. Elle a donc proposé à l'Assemblée régionale de baisser le niveau théorique de cette indemnité à 14%, ce qui représente, selon Carole Delga, une économie d'1 million d'euros par an. Plus de peur que de mal ce week-end à Montauban, alors que le marché tirait à sa fin et que les retardataires finissaient leur course. Vers 13h30, un feu de véhicule s'est déclaré dans le parking souterrain de la place de la cathédrale. Un feu sans gravité, mais assez spectaculaire. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, les pompiers de Montauban, qui ont éteint l'incendie et qui ont empêché qu'il ne s'attaque à d'autres véhicules garés en sous-sol après avoir vérifié que le parking était vide et qu'il n'y avait aucune victime. Plus de canetons dans les élevages du sud-ouest. La mesure prend effet aujourd'hui. C'est une mesure radicale pour éradiquer l'épidémie de grippe aviaire et cette mesure a un coût entre 250 et 300 millions d'euros selon les professionnels. Les éleveurs ont d'ores et déjà demandé des indemnisations à l'État. Du rugby enfin et la belle victoire de Rodez à domicile face à Bagnères. Score final 26 à 15. De Casseville en revanche s'est incliné face à Cahors 24 à 20. Ce week-end. Voilà pour l'essentiel sur CFM. Bonne fin de journée à tous.
Le sport, tous les sports. CFM.
Lundi sport avec le quiz de David Fabier. Tiens.
Salut, David. Salut. Le quiz.
Salut.
Allez, petite question quiz. En 1984, quel club français s'imposa 4 buts à 1 au Camp Nou face au FC Barcelone en Coupe des Coupes?
Ah, Metz, le FC Metz.
Le FC Metz.
Oh, bah, j'ai été peut-être un peu rapide. Bah oui, c'est ma génération.
Tu as été très rapide.
Ouais. Bravo.
Non, bah, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu rapide.
Non, mais, alors, comme on a raté tout à l'heure la chronique en e-sport régional, avant de donner la parole à Jean-Claude Vigroux, je passe à Jennings.
Ouais, un seul résultat régional. Donc, hier, le Costa d'Andy Basket s'est imposé à domicile face à Pau. Alors, c'était un match comptable pour la 11e journée du championnat de France de National 2 de basket fauteuil. Et c'est une très belle victoire, 72 à 34, ce qui permet aux Tarn-et-Garonnais de conserver la première place du classement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller les encourager lors des matchs, eh ben c'est au gymnase municipal rue Jean Moulin, 82 300 à Caussade.
Merci Jean-Claude Vigroux, le quiz.
Mes petits gars, restez bien accrochés sur vos sièges.
En 1932, qui...
Oui, même par là, oui. Quel a été le premier pays organisateur de la Coupe du Monde de football?
L'Uruguay.
L'Uruguay.
Pardon?
L'Uruguay.
Oh là là, ça.
Ouais. Et l'année, c'était quand?
1932.
Non.
Ah, avant ou après?
Bah, 28.
Avant.
28.
Non.
24?
Non.
18.
C'est par là?
Non, 18.
2.
Non.
Non. Oh. En 2.
En 2. Ah, est-ce que c'était en 1900?
Après.
Oui, non, mais je veux dire, c'est dans le siècle.
Dans les années 1900, oui.
Voilà.
38, alors.
Non.
1930.
Mais non.
C'est... Exact. Qui c'est qui a dit 1930?
Non, l'a dit Jean.
Moi, je vous attendais sur 1930 parce que c'est une année qui tombe pas une année qui finit par zéro. C'est là qu'on a fait le calcul tous les 4 ans à partir des années 1930.
Voilà. Et qui avait remporté la Coupe du Monde cette année-là?
L'Uruguay.
Eh bien, exact, oui.
Et l'Uruguay a gagné les deux premières éditions, d'ailleurs.
Et voilà. Vous allez arrêter de prendre les questions de Jennings à chaque fois.
Non, c'était pas ton coup.
Non, pas du tout. Ah, parce que c'était la question de Jennings.
Non, c'est une blague.
Non, pas du tout. Non.
Allez, on est reparti sur le football. Résultats locaux.
Eh bien, les féminines jouaient à Polignon samedi soir. Elles recevaient l'équipe de La Roche-sur-Yon. Les Ruthénoises ont fait un très bon début de match jusqu'à la 70e minute où elles menaient par 3-0. Hélas pour elles, elles sont éteintes comme une vieille bougie petit à petit. La flamme est descendue et La Roche-sur-Yon est revenue au score. Et Rodez a quand même gagné 3-2, mais ça a été une fin de match crispante. Les Ruthénoises qui se retrouvent à la 5e place, juste derrière le quatuor des invincibles, des intouchables. Lyon en tête devant le Paris Saint-Germain, Montpellier et Juvisy. Et 5e, Rodez, Albi, la SPTT Albi, elles ont fait un bon match certainement puisqu'elles sont allées perdre à Juvisy par 3-0. Et la SPTT Albi se retrouve à la 7e place. On jouait également en division d'honneur où seulement 2 matchs ont eu lieu. On est le Château chez lui a perdu contre Auch sur le score de 1-0 et Rodez se rendait à Lourdes et beau match des Ruthénois qui sont allés gagner à Lourdes par 3-1, ce qui permet aux Ruthénois de remonter à la 5e place alors qu'on est le Château se trouve à la 10e place. Albi sans jouer reste à la 3e place et la Primaube est 11e. On jouait également en division d'honneur régionale. Et là, c'est un résultat qui intéresse les Montalbanais que vous êtes, des assidus de Montauban. Puisque Montauban se rendait dans un quartier difficile de Toulouse où il est très dur de jouer au football. Bien, c'était au Mirail. Et Montauban a fait le match nul au Mirail par 4-4.
Ah ouais, non.
Ah oui, il y avait des buts, ils se sont régalés les spectateurs. Bon, il y en avait 3.
C'était pas des balles, c'était des buts.
Comment ?
C'était pas des balles, c'était des buts.
Oui, c'est pour une fois, oui. C'était des balles rondes, oui. Et Montauban reste donc leader de sa poule devant Albi, qui est à la, devant Colomiers, qui est à la 2e place.
Moi, ça sent la remontée, là, pour Montauban.
Ah ouais, oui, ça sent bon. La saison n'est pas terminée. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de points d'avance. Hein.
Oui, puis mais s'ils remontent, il ne faudra pas faire comme le RC Lens.
C'est assez courant chez Montauban en football ces temps-ci. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils travaillent avec Otis. Hein.
qui n'a pas donné son quiz encore? Son quiz?
Bah, Jennings, tu l'as, t'as posé la question?
Non.
Allez, Jennings, ta question.
Eh bien, allez, alors c'est parti. Alors bon, tout le monde le sait, depuis 1998, l'équipe de France joue au Stade de France. Mais quels étaient les deux autres stades où les Bleus jouaient avant?
Ou avant
le Parc des Princes?
Et Colombes.
Ouh, joli, bravo.
Oui. Exactement.
Alors bon, le Parc des Princes, c'était de 1905 à 1997.
1905?
Ouais, exactement. Et Colombes, c'était de 1908 à 1972.
Ouais. Ben, tu sais
ouais,
que
le Parc des Princes, 1905,
c'est le stade où je m'entraînais, moi. Quand je jouais en région parisienne, c'était le stade où je m'entraînais sur le stade de Colombes.
Enfin, moi, j'ai passé le bac juste à côté.
Et il y avait quand même pas mal de places. Il y avait 60 000 places.
Moi, j'ai habité à Longjumeau.
C'est génial.
Sinon, moi, je...
Moi, j'ai mangé des nouilles.
Toi, j'ai mangé une colombe.
Et moi, j'avais un copain qui s'appelait Kléber à Colombes.
Kléber, Colombes, c'est quoi la blague?
Kléber, Colombes.
Les mecs, ça glisse, hein.
Bon, puisqu'il a la parole, l'ami...
On y va sur le rugby?
Jean-Claude, on y va sur le rugby.
Allez, c'est parti. Alors, donc, on a repris les fédérales après une longue trêve de 4 semaines. Donc, en fédéral 1, poule 1, Groyer, qui jouait son maintien là, contre Anglette, a gagné par 27-11. Lavor était faire un gros coup à Tyros en gagnant par 17-13. Et Valence-Agen a gagné par forfait par Chalon-sur-Saône. Parce qu'il faut savoir que la DNCG vient encore de tirer à vue sur un club du championnat de fédéral en l'interdisant de jouer parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Donc Chalon-sur-Saône a déclaré forfait général pour toute la saison. Ce qui arrange bien Valence-Agen qui, grâce à cette victoire, se replace 5e en classement. Groyer 8e et Lavor est 4e en poule 3. Grosse poule, Auch a battu Blagnac par 41-15 et Rodez est venu à bout de Bagnères de Bigorre par 26-16 avec une grosse bagarre générale à la 77e, n'êtes pas David?
Oui, un super match hein, du SRA qui s'est bien battu. On a vu vraiment des joueurs qui avaient L'envie, ça a été compliqué parce qu'il y avait 16-16 à la mi-temps. Et puis, bah, écoute, la deuxième mi-temps, on avait aussi la condition physique du côté du 15 ruthénois, un essai de plus, avec d'ailleurs un pilier qui de son plus de 100 kilos qui a fait un sprint de 35 mètres pour aller marquer le deuxième essai. Victoire 26-16 et un coach du SRA qui restait quand même mesuré à l'issue de la partie. On écoute Arnaud Vercruis.
Je suis content, enfin soulagé, content. Après, il y a une différence, c'est que je peux pas me permettre aujourd'hui d'être dans l'euphorie. L'euphorie, elle est pour les joueurs à la fin du match, ils doivent la partager. Je crois que ça serait très présomptueux de ma part que de montrer des signes émotionnels trop forts. Après les coups qu'on a pris sur la tête, il faut rester humble. On était conscient qu'on avait raté certains matchs de pas grand-chose, mais on les ratait. Aujourd'hui, on les réussit. Le pas grand-chose, on l'a inversé dans l'autre sens. C'est pas pour autant, je crois, qu'il faut verser dans un excès d'euphorie ou d'optimisme. Il y a beaucoup de choses qui ont pas été très bien négociées aujourd'hui. Nos sorties de camp ont été très moyennes, voire mal adaptées en première mi-temps. On a confondu le jeu au pied de dégagement et le jeu au pied de pression. On a confondu par moment le fait qu'il fallait jouer au pied en première intention au lieu de passer par des points de fixation qui ralentissaient encore plus le jeu et qui permettaient à la défense de te remettre la pression et permettaient aussi à eux de se réorganiser dans le troisième rideau. Donc voilà, ce sont ces points où on n'a pas été... on a été moyen, quoi. Voilà, ça, ce sont des points à travailler.
Voilà, ils vont continuer de travailler parce qu'il y a un match dès le week-end prochain pour le SRA qui est 7e de sa poule en Fédéral 1.
Ouais, c'est une bonne remontée quand même. Puis ce match était important pour le classement. Il y avait aussi en Fédéral de poule 6, le Racing de Montauban perd à la dernière dans les arrêts de jeu contre Hendaye par 15 à 13, pénalité à la 81e. C'est pas bon. Saint-Jean-de-Luz a battu Castel par 28 à 15 dans cette poule 6 de la Fédérale 2, premier Castel, deuxième Hendaye, troisième, huitième le Racing Club de Montauban. En poule 7, Cahors recevait de Casville. Cahors a gagné pareil dans les arrêts de jeu par un essai, 24 à 20 pour Cahors. Gaillac recevait Issoire, 38 à 10 pour Gaillac. Alors j'assistais à ce match en présence des joueurs du CO. Alors il y en avait la moitié qui était pour Gaillac, la moitié qui était pour Issoire. C'est ceux qui étaient pour Issoire qui ont payé la bière à la fin du match. Malmore a battu le Levezou Segala par 31 à 12. Emilio a battu difficilement Saint-Junien à la dernière minute par 19 à 18. Dans cette poule, 7 premier Mio, 3e Gaillac, 4e Cahors de notre ami Yannick, et 5e de Casville et 9e le Levezou. Pas de match pour Nègrepelisse en Fédéral 3, forfait.
Merci Jean-Claude, j'ai une question, j'en ai une autre. Bah oui, j'en avais prévu deux.
C'est bien.
En basketball, le meneur de Houston Rockets, il s'appelle Ty Lawson, il a été suspendu de 3 matchs par la NBA. Pour quelle raison ?
Il a mordu un adversaire.
Il a pas mordu un adversaire.
Un mauvais geste sur le parquet ?
Non, ce n'est pas un mauvais geste sur le parquet.
Il a couché avec la femme de l'entraîneur.
Ouais, il a couché avec la femme de l'entraîneur, mais on se rapproche.
Ouais, on s'en rapproche.
C'est des propos homophobes, ça.
Non, ce n'est pas...
Qui a mal parlé, ça.
C'est pas, non, c'est pas des propos homophobes.
C'est pour un geste.
C'est pas pour un geste. Quand je dis qu'Aurélien se rapprochait...
C'est
parce
pour une pratique.
Non, mais parce qu'il y a une raison, en fait. Allez, on y va. Vite.
Il y a excès de vitesse, bourré.
Pas mal. Eh ben oui, tu y es là. Tu y es, effectivement. T'as googlisé, hein, mon salaud.
Non.
Il a conduit en état d'ébriété. Et voilà. Et donc, comme il avait déjà écopé de deux matchs suspendus, là, il en est à 3 matchs suspendus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, 3 matchs suspendus? Ça veut dire qu'il jouera pas face à l'Utah, ni contre l'Indiana, ni contre Memphis dans les prochains jours. Ça signifie surtout qu'il va devoir faire une croix sur 450 000 dollars. Parce que la suspension le prive de son salaire qu'il recevait durant les 3 rencontres. Au total, il aura donc perdu sur l'ensemble de ces histoires-là pour s'être fait arrêter par la NBA, 750 000 dollars.
Putain, nous, quand on gueule pour 400 euros qu'on prend un PV, alors...
Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant. Moi, je savais pas que, par exemple, est-ce qu'un joueur en France peut être suspendu par sa fédération pour des choses qui se passent dans sa vie privée ?
En foot, non.
Ça doit pouvoir se faire, mais j'ai pas d'exemple qui me vient. Ou à part si un joueur niçois, je crois qu'il a eu un accident sur la Côte d'Azur avec sa Ferrari.
Qui ça?
Un peu le con.
Le joueur niçois est suspendu, c'est par exemple dans leur contrat de travail, on leur interdit par exemple aux footballeurs de faire du ski. si le gars il se pète une guibole en faisant du ski, alors qu'il doit pas en faire en foot.
Et ils doivent pas non plus porter atteinte à l'image du club.
Ah oui.
Souvent. Maintenant
ah.
dans les contrats modernes, il y a ça. Donc, par exemple, à l'histoire de Benzema à la cassette de Valbuena, Benzema, s'il continue de marquer comme ça, qu'il soit coupable ou pas, on va le retrouver quand même avec l'équipe de France, hein, à mon avis.
Ouais, ça c'est clair.
Donc, dans les faits, ça doit exister, mais dans la pratique, moi, j'ai pas d'exemple comme ça flagrant qui me reviennent, alors que eux aussi, ils conduisent vite et eux aussi, ils boivent des coups. Hein.
Il faut que les contrats de travail stipulent la chose pour laquelle tu peux être suspendu.
On envoie la pub, et juste derrière, il y aura encore une question quiz et de l'handisport. C'est parti.
CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7. 90.7. CFM à Montauban.
Montauban.
101.2. 101.2.
Bienvenue.
PCV. Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
L'invité de PCV cette semaine, c'est Anastasia.
Quand je dors, les gorgones dansent et leurs
Aquatofana, c'est le titre du deuxième album d'Anastasia.
Tu vois, aujourd'hui, je vomis tout, j'aiguise ma lame et des...
Anastasia est dans PCV tous les jours à 9h30, 15h40, 18h50, diffusion intégrale, samedi 22h.
Maman, maman, t'as vu, il y a un trait sur le pare-brise.
Je sais, chérie, le pare-brise est cassé, mais je vais avoir une franchise à payer pour le remplacer.
Mais non, chez Rapid Pare-brise, tu ne paies rien. Et en plus, si t'as pas de franchise, on t'offre une tablette tactile.
Ah bon, chez qui tu dis?
Chez Rapid Pare-brise, 505 avenue de l'Europe, à Alba Sud Montauban.
Rapid Pare-brise, ok, on y va. Et oui, vous aussi, n'attendez plus. Allez chez Rapid Pare-brise pour vos vitrages automobiles. Ils ouvrent le 12 janvier, avenue de l'Europe, à Alba Sud Montauban. Et en plus, une carte totale de 25€ attend les 50 premiers clients. Dépêchez-vous.
Bonjour, dans Onde Positive, on voit la vie en forme et en couleur, avec cette semaine mon invité Carlos López Neto, artiste peintre.
Et je me suis recréé une vie ici, sans ma famille.
Il nous parle de son parcours, de son combat contre l'addiction, de la rencontre avec la peinture qui devient une forme de thérapie et de sa joie de vivre retrouvée qu'il partage dans ses tableaux. Mardi 13h, dimanche 20h, Onde Positive et qui nous aime, nous suivent.
CFM à Montauban.
Montauban.
101.2. 101.2.
Je suis pas sûr qu'il y ait eu la question quiz de Jean-Claude, il me semble pas. Il m'en manque une question quiz.
Oui, mais ça, moi aussi.
La mienne, non, tu l'as pas eu.
Allez.
Elle est introuvable. Alors, je vais vous demander quel règlement a été appliqué pour le foot, puis abandonné, qui a été repris par le rugby.
La vidéo ?
Non, après je vous donnerai le détail d'une explication qui a été...
Ah, le carton provisoire, là ?
Non.
Le hors-jeu ?
La main ?
Non.
Le troisième arbitre ?
J'essaye de trouver des trucs qui se googlent pas, alors, donc...
Les 22 mètres ? Je sais pas...
Non, pas les 22 mètres. Oh, mais c'est un truc très simple, quand je vais vous le dire, vous allez dire...
C'est...
Ah, bah, oui.
C'est...
La touche !
La touche !
Le seul qui peut le trouver, ce truc, c'est Jean-Claude Igrou.
Oui, oh bah, j'adore. Hein,
la taille des crampons.
Non.
Un truc qui existe en football.
Est-ce que ça concerne l'habillage?
Non plus.
Est-ce que ça l'habillement compte... plutôt, non?
Ouais.
Ça ne concerne pas la tenue des joueurs.
Ça concerne la billetterie.
Les longueurs de stade, la dimension du terrain.
Longueur du stade, ni le degré de la bière dans le bar.
Est-ce que ça concerne la prise du ballon?
Non plus.
Les ananas.
L'arbitrage?
Non plus, ça concerne pas l'arbitrage. Ça concerne
la durée du match?
Non.
Pardon?
La durée du match?
Non plus.
Ah, la sélection des joueurs alors?
Non plus.
Oh là là. La mi-temps.
Alors je vais vous le dire parce que vous allez tourner autour. Après, je vais vous raconter pourquoi c'était supprimé par le foot. C'est le point de bonus quand on marque. Alors, au foot, dans les années 73, 74, 75, il y avait le point de bonus lorsqu'on marquait 3 buts.
Ah.
Et ce truc-là est annulé. Alors, je vais vous raconter pourquoi.
C'est le point de bonus offensif, c'est ça?
Non, les deux. Il y avait le point de bonus parce qu'il n'y avait pas de défensif. Hein. Au rugby, c'est le défensif, mais au foot, ça n'existait pas le défensif. Donc, l'équipe qui marquait 3 buts. Par exemple, même si elle perdait 4-3, elle marquait un point de bonus. Il suffisait de marquer 3 buts. Ce règlement, il avait été voté par le président de Nancy, que j'ai entendu parler sûrement Jean-Claude, qui s'appelait Cuny. Claude Cuny.
Cuny, oui.
Cuny. Bon, alors, donc, la dernière journée du championnat, le 25 mai 1974, il y avait deux clubs qui étaient prévus pour descendre en deuxième division, c'était Paris FC et Sedan. Il restait un club à désigner, Monaco avec 40 points, Troyes avec 40 points et Nancy avec 38 points. Nancy recevait chez lui. Si Nancy gagnait avec le point de bonus, ils étaient maintenus. Donc à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait que les infos de radio. À 22h, Nancy menait 3-1. Donc Nancy pensait qu'ils étaient, ils allaient se maintenir. Bon, mais il y a un gros problème, c'est qu'à 22h15, à la fin du match, alors que Nancy faisait la fête dans les vestiaires, portait le tour du terrain, acclamait tout, c'est que de l'autre côté, à Reims, les joueurs rémois, ils n'avaient qu'une chose en tête, c'est de faire devenir Carlos Bianchi meilleur buteur du championnat. Reims gagne le match, Reims qui menait 5-1, perd le match par 5-4. Donc l'équipe qui jouait contre Reims, toc, marque un point de bonus. Et après, il y a eu encore un gros scandale, c'est que Carlos Bianchi, dans ce match, a marqué 4 buts en un quart d'heure en battant Monaco par 8-4.
Et Monaco, il y a déjà la corruption à l'époque.
À l'époque, ça fait un scandale terrible, c'est-à-dire qu'ils ont pris, ces résultats comme de la magouille pour faire descendre Nancy. C'était le premier scandale du foot, et l'année d'après, le bonus a été supprimé.
Et là, c'était pas la règle à 3 points à l'époque.
Ah non, du tout. Non, tu marquais 3 buts, tu marquais un bonus. Il n'y avait pas 3 buts d'écart, etc. Toi.
Donc, du coup.
Tu finis par 8-4 en marquant 4 buts en un quart d'heure. C'était juste. Voilà quoi.
Et du coup, la victoire sèche, elle valait combien?
2 points.
2 points.
Moi, ce que je retiendrai de cette.
La victoire sèche valait 2 points. Et si tu gagnais par 3 buts à 2, tu avais un point supplémentaire. Ça faisait 3 points en placement.
Alors, ils en ont reparlé il y a quelques années de cette règle-là, la remettre en place quand on se plaignait qu'il n'y ait pas assez buts en championnat de France. Ça avait été évoqué de l'attribuer des points de bonus, mais ça ne s'est pas fait.
Et alors, il faut savoir que Carlos Bianchi a marqué 4 buts dans ce match. Il a marqué à la 67e, 76e et 87e. Et il a battu Berdol d'un point qui joue au PSG à l'époque.
On dirait Pierre Belmar.
Carlos Bianchi, c'est italien, non?
C'est un argentin.
Ouais, non, je sais.
Non, mais moi je trouve qu'on dirait Pierre Belmar tellement il raconte bien les histoires, ouais, sur Jean-Claude.
Ouais. Ben ça va, il n'y a pas de mort là, je pense.
Qui est un ténor de River Plate.
Bah, Belmar?
Belmar?
Non,
avant.
Bien pire.
Ah bon.
Belmar, non.
Pierre Belmar au foot quand même.
Et comment tu dis River Plate?
River Plate.
C'est River Plate, t'as quoi dit?
River Plate si t'es français.
Ouais.
Oui.
Et moi, voilà. Je suis français.
Handisport, monsieur, dame.
Ouais, alors deux résultats. On commence par du tennis fauteuil. Les Français ont brillé lors du Super Série à Sydney. Alors, en finale du double homme, la paire Stéphane Houdet et Nicolas Pfeffer a battu deux Britanniques en 3-7. Et en finale simple homme, Nicolas Pfeffer a également battu un Britannique également en 3-7. Et Marie Bochet, qui est une grande skieuse paralympique, qui a gagné de nombreux titres, notamment en 2014 et 2015, a remporté ce week-end 2 médailles d'or à la Coupe du Monde de ski alpin en Slovénie, et course remportée donc en slalom et slalom géant. Très belle performance et donc très bon début d'année pour elle.
Et voilà pour la rubrique Handisport.
Et c'est tout.
Et c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui il reste une question quiz?
Bon, j'en ai une petite, mais si vous voulez, rapide, hein, toujours tennis. À l'occasion du Grand Chelem là en Australie qui a débuté la nuit dernière. Alors quel est le ou la française la dernière à avoir remporté ce premier Grand Chelem de la saison?
Marie Pierce?
Non.
Moresmo, oui.
Non plus. Je vous ai demandé d'avoir remporté un tournoi du Grand Chelem, excusez-moi.
Pas l'Australie,
forcément. Vous répétez la question.
Voilà. Quel est le dernier joueur ou la dernière joueuse française à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem?
Marion Bartoli.
C'est celle qui a gagné l'Open d'Angleterre, alors qui a arrêté le tennis et qui a repris parce qu'elle a pris 15 kilos. C'est, je me rappelle plus son nom.
Bartoli.
Là. Ouais, c'est ça, c'est Bartoli. Marion Bartoli. Et l'année?
L'année dernière.
C'est pas, non, 2012 non. Ou 2013, je
dirais. Non, le temps passe vite.
T'as plus que ça?
2007.
2007,
Marion Bartoli. Morismo, c'est.
2013, ouais.
Eh ben, dites donc.
On va vérifier quand même.
Ça nous amène à l'agenda, tout ça.
Ouais. Ouais. Bah, il y a du foot, la Coupe de France, là, cette semaine.
Allez, de la Coupe de France. Mardi, Paris Saint-Germain face à Toulouse, une affiche de Ligue 1. Olympique de Marseille, ça sera mercredi face à Montpellier, c'est une autre affiche de Ligue 1. J'ai noté un match, Bastia, qui recevra Sochaux, l'équipe chère David Dumont.
Ouais.
Voilà. Donc, on viendra aux nouvelles des petits Sochaliens. Et puis, la grosse affiche de cette Coupe de France, c'est Granville face à Sarreguemines, quand même, il faut le rappeler.
Voilà. Plus près de nous, on a, ici à Rodez, un match de CFA ce samedi, hein.
Tout à fait.
Avec le Rodez. Il recevra l'équipe de Mont-de-Marsan avec un coup d'envoi à 18h au stade Paulignon. J'imagine Jean-Claude ce week-end.
Eh bien, Biarritz et puis Montauban qui va à Mont-de-Marsan.
Ah bah, Mont-de-Marsan pour tous les goûts.
Voilà.
Et en handisport, alors en basket fauteuil, l'équipe 1 du Toulouse Iron Club se déplace vendredi à Bordeaux pour la 12e journée de National A. Également pour la 12e journée de National 2, l'équipe 2 du Toulouse Iron Club ira samedi dans le Gers à Pavie. Et en foot fauteuil, le Toulouse Foot Fauteuil Club va à Auch pour disputer le championnat de France de première division. L'équipe de Auch, justement les Twisters, y participeront. Alors si vous souhaitez y aller, c'est samedi et dimanche à la salle du Mouzon à Auch. Et si vous voulez retrouver l'affiche, elle est sur la page Comité Handisport Midi-Pyrénées sur Facebook.
Moi j'ai une petite info, le 13 filles en Ovalie, c'est un documentaire à voir ce soir après le soir 3 sur la télé régionale de France Télévisions, France 3, vers 23h55, une immersion dans le club du rugby à 13 de Toulouse-Ovalie, à la rencontre de ces jeunes femmes qui ont fait le choix de pratiquer et de s'investir dans un sport longtemps considéré comme un des plus virils.
Ouais. J'oublie quelque chose dans l'agenda. Je voulais dire que les joueurs de Rodez en Fédéral 1, ce week-end, c'est Lourdes.
Eh ouais, déplacement dans le Gers, ouais.
Ouais.
Compliqué. Tiens, moi j'en profite pour rectifier Marion Bartoli, sa victoire à Wimbledon, c'était bien en 2013. En 2007, oui. Elle avait fait finaliste seulement.
Mais c'est 2013.
2013, c'est bien ça, Jean-Claude, ouais.
Eh ben voilà, merci messieurs, si tout va bien. Si personne a des palpitations.
Non, tout va bien. Nous, on va partir faire un peu de ski là, du côté de Rodez, ouais. En Aveyron.
Point météo, ça tombe encore à Rodez. Hein.
Ah, voilà. Et c'est le moment d'aller à l'Aïol, non? Pour faire du ski.
Oh, ouais, mais ici, ça suffit. Hein,
on a des rues pentues, nous, ici.
Il y a au moins une rue. Moi, je suis dans une rue, c'est piste verte. Hein.
Et il est venu quoi, le gars qui voulait organiser la Coupe du Monde de ski à l'Aïol?
Reversa.
On a interview il y a 2 ans, là, il voulait.
Ben oui, tout à fait. C'était les Jeux Olympiques.
Eh ben écoute, on va le retrouver.
On va le retrouver, on va le chercher.
On n'a pas réussi à joindre Yannick Ricardo, donc il nous excuse, mais voilà, il doit être en pleine réunion de travail du côté de Pau, quelque chose comme ça, donc il n'a pas allumé son téléphone. On le retrouvera lundi prochain avec l'ensemble de l'équipe souriante de lundi sport, si tout le monde n'est pas sous la neige. D'accord.
Ouais, on espère. Hein.
Allez, ciao. Allez,
bon courage à tous.
Ciao. Bonne soirée.
Bonne soirée, les gars.
Bonne bourre.
On va jouer, on va vous offrir des cadeaux au 05 63 930 020 avec des questions super compliquées dans 5 minutes, juste après le journal, à de suite.
Info, CFM, les infos.
Bonsoir à tous. Une nouvelle avalanche meurtrière dans les Alpes. Des militaires ont été emportés lors d'un entraînement. Bilan 5 morts et 3 blessés graves. Dernière chance pour faire reculer le chômage français.